Bon, portrait de femme, c'est à l'usage des jeunes générations.
À l'usage des jeunes générations, ça commence par un portrait, des portraits assez bouleversants, en fait, d'une forme de gynécée, quasiment, où vous êtes le seul homme, puisque votre mère a deux sœurs, donc voilà, ça nous fait trois sœurs, vous-même avez deux sœurs, votre père que vous évoquez avec bienveillance, d'ailleurs j'ai trouvé, mais rapidement, c'est-à-dire que vous êtes littéralement mais entouré, choyé de femmes. Et d'ailleurs, c'est drôle, parce qu'on va vous reprocher de faire les fiers à bras, d'être vantard, etc. C'est pas vrai, la preuve, puisque vous dites que vous auriez dû rejoindre, par exemple, l'une de vos tantes dans son lit, et que vous n'en avez absolument rien fait, et vous vous traitez de crétin, ou de quelque... ou
lâche,
de lâche. Lâche, voilà, et vous vous traitez de lâche. Donc voilà, avec les regrets évidents. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que vous vous êtes retrouvé très naturellement parmi les femmes.
Alors attendez, c'est une famille particulière. Il y a deux frères qui épousent deux sœurs, qui vivent dans deux maisons symétriques, chaque pièce de l'une correspondant à la pièce de l'autre maison. Donc ça fait d'emblée deux mères et deux pères. Les deux pères, je m'en occupe pas et je conseille aux débutants et aux jeunes générations de ne pas s'affronter aux pères, aux hommes, aux éducateurs, aux professeurs. Non. Alors, j'ai senti très tôt, que j'avais dans les femmes des alliés potentiels. N'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que les femmes n'y croient pas. Ce sont des incrédules. Ou alors elles y croient trop. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Hein.
Elles sont sceptiques.
J'adore ce mot de Hegel. Vous savez, une femme, c'est toujours l'ironie de la communauté. Donc les communautés, c'est les filles. Mais il y a quelque chose dans un angle qui fait qu'il y a une sorte d'athéisme fondamental. Même chez celles qui prétendent être les plus croyants dans la société, la famille, etc. En fait, c'est faux. Et là, si on est un peu malin, si on regarde un peu les choses comme un peintre ou un musicien, si vous voulez les écouter, là, il y a des possibilités de jeu. Et bon, c'est ce que je décris. Je décris d'abord ces deux sœurs. Être peintre, voyez, ma mère avait deux yeux de différentes couleurs. Bon, l'un marron, sombre, l'autre clair et doré. Ça a attiré ma attention parce que est-ce qu'elle avait l'impression ou pas d'être deux en une. Vous voyez, je regardais de très près ses yeux, m'enfonçant dans le plus profond, essayant de comprendre ce que me disait le plus clair. Personne ne faisait attention à ça. Personne. Mais si on est peintre, on voit ça tout de suite. Alors donc, j'essayais de deviner ce qui se passait. Et j'ai compris, ça a été une alliée très, très profonde, tout en essayant de me contrecarrer, de m'espionner, etc. Des tantes, c'est pareil, elles étaient très bizarres, l'une comme l'autre. Je raconte ça. Après ça, il y a d'autres aventures, d'autres personnages qui surgissent. Et je voulais simplement marquer à quel point le savoir-vivre de la région où je suis né, c'est-à-dire le sud-ouest, c'est-à-dire Bordeaux, c'est-à-dire tout ce paysage extrêmement étrange, parce que vous savez qu'on est en Corrèze aujourd'hui, pas tout le monde, on a un président corrézien qui a été adoubé par un autre président corrézien, on n'en finit pas, c'est les Charentes ou la Corrèze. Enfin, personne ne va dans cette région hautement civilisée, ou très peu de gens.
Sarkozy, c'était l'Ouest parisien et Neuilly, disons.
Oui, mais il n'y a pas de savoir-vivre à Neuilly.
Ça se saurait.
Ça se saurait. Alors qu'il y en a un énorme à Margaux, etc. Venez, je vous montrerai la Gironde. Non, il y a un art de vivre, qui m'a tout de suite frappé. C'est la bourgeoisie décalée. Une famille qui ne ressemble à aucune autre, parce que je cherche encore aujourd'hui à la bougie. Ça, c'est la bourgeoisie, la mienne, du moine de Bordeaux, anglophile. Il y a eu une présence anglaise très forte, irlandaise, il y a eu une arrière-grand-mère irlandaise. Et donc c'était Vichy, ça ne va pas. Non. L'axe Vichy-Moscou en politique et en histoire, qu'on regardait, c'est tous les jours. Vichy ne passe pas, et puis vous avez Moscou, vous avez le mariage du cher Depardieu avec Poutine. C'est un mariage qui me rend homophile, finalement. Je ne comprends pas pourquoi on critique cette étreinte. Voilà deux hommes virils qui s'étreignent férocement. La chose va être secrètement bénie par l'Église orthodoxe. Il y a déjà une centaine d'Ukrainiennes qui demandent d'être inséminées par la PMA. Vous savez qu'une Ukrainienne, je n'invente rien, hein, une Ukrainienne qui fait ça aujourd'hui, mère porteuse, hein, touche 1 500 € par bébé. Avec, voilà, donc il y a vraiment, c'est une victoire industrielle française qui peut en effet faire que l'industrialisation du corps humain connaisse un progrès. Je ne vais pas jusqu'à dire comme Pierre Berger, qui a eu là, à mon avis, une parole regrettable, qu'il a regretté, j'espère, à savoir qu'une femme qui loue ses épaules à l'usine, c'est exactement la même chose que de louer son ventre. Je n'accepte pas cette vision du corps féminin, qui me paraît extraordinairement restreinte et anatomiquement fausse, n'est-ce pas, entre les épaules et l'utérus. Vous savez, voilà. Donc, il faut quand même se faire à l'anatomie. Et si on interroge les deux sexes sur l'anatomie de l'autre sexe, on a des réponses stupéfiantes. Moi, je n'arrête pas de m'émerveiller de l'ignorance anatomique des humains.
Ah bon, parce que vous vous étonnez souvent de l'ignorance historique des humains. C'est donc pareil. Aussi de leur ignorance anatomique. Ah,
l'ignorance anatomique est flagrante. Oui, flagrante.
Ah oui.
Non, mais les hommes savent à peu près rien de la façon... Ils confondent les orifices. En fait, ne me lancez pas là-dessus, parce que ça va devenir ennuyeux. Non, vous savez que la situation est vraiment tragique. Et le malheur vous est vendu à chaque instant.
Alors, par exemple,
je vais vous lire. Voilà. Voilà le roman dont tout le monde parle, qui a fait la une de ce journal prestigieux qui est notre Pravda, en quelque sorte, Le Monde, n'est-ce pas, avec la photo de l'auteur Yasmina Reza, qui est bouleversante de beauté, avec un œil très intelligent. Et voilà la critique dans le journal du dimanche, que je vais vous lire ce qui est devenu la critique littéraire française. Alors, elle s'appelle Yasmina Reza, et l'auteur de l'article s'appelle Marie-Laure Delorme, dont je ne manque jamais un papier tellement il me semble inspiré, vous savez, mais vraiment inspiré avec le corps. Hein, voilà. On meurt mieux qu'on ne vit, chez Yasmina Reza. Pas mal déjà. On s'égosille dans les couloirs sordides d'un supermarché durant des années, mais on s'éparpille sous forme de légères cendres au-dessus d'un ruisseau pour l'éternité. C'est pas beau ça, hein ? Et entre le caddie poussé sous les néons et la sciure grise dispersée dans l'air, on domestique tant que bien mal sa sauvagerie. Ah, c'est la solitude. Alors, vous voyez, c'est le fait que les hommes et les femmes ne sont pas faits pour se rencontrer. Vous voyez, une ironie. Le temps compte et court entre les phrases comme des veines bleues prêtes à exploser. Vous y voyez là,
ah,
les veines bleues qui vont exploser. C'est la peinture, c'est nous sommes c'est qui là, c'est Klimt. Les silhouettes s'asphyxient, s'agrippent, s'exaspèrent, un délirant tango. On est trop loin ou trop près en amour, et puis toujours, etc., etc. Voilà. Donc les hommes et les femmes ne sont pas faits pour se rencontrer. Et ça s'appelle, le titre, c'est la catastrophe du sentiment. Donc vous avez ça pratiquement tous les jours la presse.
Voilà. Et ça, c'est ce que, alors c'est un exemple. Donc cet article de Marie-Laure Delorme dans le journal du dimanche consacré au dernier livre de Yasmina Reza, Philippe Soler, ça pour vous, c'est un exemple de ce que vous appelez la publicité ou l'industrie du malheur.
La propagande du malheur, ouais. Absolument.
La propagande du malheur. Voilà.
Absolument.
Soyons précis.
Il n'y a rien qui soit plus mal toléré, mais mal vécu, comme des gens heureux. J'ai dit un jour, j'ai renversé la proposition, pour vivre heureux, vivons cachés. Non, pour vivre caché, vivons heureux. Personne ne vous soupçonnera. C'est absolument impossible. La société est là pour vous dire que vous êtes malheureux. Alors, vous devez revendiquer, vous plaindre, parce que tout le monde croit que c'est la faute des autres, la faute de la société. Pas du tout. C'est votre faute, si vous n'êtes pas heureux. C'est la vôtre. C'est ma conviction profonde.
On fait son
Moi,
malheur.
J'ai eu 1000 occasions d'être malheureux. Et j'ai toujours essayé de traverser la rue.
Alors, sur la page en face de cet article consacré à Yasmina Reza et signé Marie-Laure Delorme, vous avez la chronique de Bernard Pivot qui, lui, rassurez-vous, dit beaucoup de bien de votre livre, Philippe Soler. Beaucoup de bien.
C'est très courageux de sa part parce que je vous signale que le journal du dimanche, c'est un journal où j'ai été chroniqueur pendant
tous les mois,
et j'ai fini par être viré.
C'est des choses qui arrive, vous savez.
C'est des choses qui m'arrivent pas en général.
Vous avez de la chance. Oui. Ça arrive une ou deux fois dans la vie.
Mais c'était bien pour une raison très précise, à savoir je m'étais moqué du tweet de Madame Treuer-Weiler d'une façon un peu cruelle, voyez-vous.
Ah, vous n'avez pas été le seul en plus, si.
Ben, vous savez, dans mon cas, c'est plus compliqué parce que c'est mieux écrit ce que j'écris.
Eh oui, c'est ça.
Ça fait plus mal.
Voilà. Alors, tiens, voilà une question qui me vient à l'esprit, écrit Bernard Pivot. Solers, une femme qui n'a lu ni Stendhal, ni Baudelaire, ni Proust, la considérez-vous comme une amante perfectible?
Mais bien sûr, et c'est même elle qui sera perfectible, parce que celles qui font semblant d'avoir lu Proust, Baudelaire, Stendhal, en général, sont de très mauvais coups. Et d'abord, il est prouvable, qu'elles prétendent avoir lu alors qu'elles n'ont pas lu. Donc, c'est un test très facile à faire, hein. On peut poser des questions. Oh, j'ai lu Proust. Ah oui, alors comment ça s'appelle le... Bon, alors j'ai lu Stendhal. Alors oui, vous êtes sûr? Et alors comment ça s'appelle les gens ne lisent plus rien, vous comprenez? Il n'y a plus que des prétentions à avoir lu. Donc, perfectible. Mais comment donc? Le livre Femme était déjà très, très particulier. D'ailleurs, ce livre-ci insiste aussi beaucoup là-dessus, à savoir qu'il n'y a pas de femme casée. Donc, elles peuvent être aussi bien dans les médias que, c'est pas les meilleurs d'ailleurs, que boulangère. Si je vous parlais de ma boulangère, au bras blanc,
pourquoi pas,
avec ses yeux bleus qui mentent.
Ah, mais vous parlez
alors, ou alors les charcutières, il y a un alloge particulier dans ce livre, Portrait de femme. Il y a un alloge particulier des femmes médecins, ouais, ou des infirmières, ouais, car là, j'ai eu de très grandes passions pour des femmes que j'admire. J'admire les femmes suivantes. Celles qui sont médecins, ou infirmières, ou scientifiques, souvent. Non, celles qui sont musiciennes, qui savent jouer d'un instrument ou chanter. Cécilia Bartoli, qui est un génie, pour moi, absolu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tricher en musique. On peut tricher en peinture. Je vous fais une installation demain où je ne sais même pas dessiner. Ils sont tous comme ça, désormais.
On peut tricher en art, disons.
On peut tricher en installation.
En installation bon. On peut tricher en art contemporain.
Oui, c'est très triché. Il y a du fric pour ça. C'est Pimpin, c'est soi-disant Pimpin. Hein, voilà. Mais on peut pas tricher quand vous êtes devant un piano ou avec un violon. Voilà. On peut pas tricher. D'où mon admiration pour les... On peut tricher aussi en faisant semblant d'être écrivain. Il y a 600 livres qui paraissent par an, dont pas une dizaine n'est publiable, en fait.
Tandis que la fille qui doit chanter l'air de la Reine de la Nuit, elle peut pas tricher. Voilà. Le critère est sûr.
Et le critère est très sûr. Il est très sûr en littérature aussi, parce que vous savez que je m'occupe un peu de ça chez Gallimard. Et donc... je reçois une dizaine de manuscrits par semaine, c'est vite vu. C'est exactement comme écouter quelqu'un au conservatoire, venir passer un petit test. Hein. Si c'est pas ça, c'est pas ça. Tout de suite, mais c'est tout de suite. Vous entendez une voix, elle est rythmée, elle est juste, ou alors elle joue à côté, les métaphores sont fausses, comme ce que j'ai lu tout à l'heure de cet éblouissant article. De vous le demander. C'est vraiment un coup à tenter, parce que Stendhal, Stendhal, ça dit quelque chose, l'italien.
C'est audacieux.
C'est la chartreuse de Parme. Et le mec, il aurait pu appeler la police, me faire embarquer.
Ou l'asile, même.
En plus, j'avais un canif dans ma poche. J'aurais pu avoir un revolver, j'avais pas été fouillé. Donc, voilà. Et donc, il me dit, Sésame, ouvre-toi. Stendhal, laisse-moi passer. Et il nous installe dans la loge impériale. C'est-à-dire vraiment très... Voilà, on a assisté à ce concert qui était désastreux.
Désastreux.
Le peuple s'emmerdait à mourir.
C'était des symphonies de malheur, ça vous a pas plu?
Et il y avait deux chanteuses à la fin qui commençaient à hurler, terrible. Oui, non. Enfin bon. Oh là là. Un désastre, mais aussi une merveille.
Et alors, dans le genre scène de roman, et vous allez dire que c'est vrai, on terminera là-dessus, parce que celle-là aussi, je l'aime bien. Vous racontez que.
Mais c'est vrai.
Mais bien sûr que non, mais vous pouvez pas inventer ça. Vous racontez qu'il y a des étudiantes américaines pour lesquelles la star, ce n'est, mais alors certainement pas vous, Philippe Solers, mais votre épouse, Julia Kristeva, qui est bien plus connue que vous aux États-Unis, étudiée dans toutes les universités intellectuelles, reconnue
comme
une grande intellectuelle.
Mais absolument.
Et donc, il y a des petites, je sais pas si elles sont petites, elles sont grandes, des étudiantes américaines qui viennent sonner chez vous et qui vous disent: vous êtes Monsieur Kristeva. Et ça vous fait rire. Et ça vous fait rire.
Mais ça me fait d'autant plus. Je trouve ça sublime. Parce que, bien sûr, Julia n'est pas là. Il y a l'endroit où je travaille, elle n'est pas là. Enfin bon, elle n'est pas là. Et oui, parce que je squatte ma femme. Vous comprenez? C'est ça. Ça aussi, il faut savoir faire. Hein, elle est très très connue aux États-Unis, elle est très connue partout, en Norvège ou ailleurs. Et donc je peux, j'arrive à New York ou Washington, et je vis chez elle. Je vis comme son gigolo. d'une certaine façon.
C'est pas mal.
Mais c'est pas mal du tout. Il faut savoir
se débrouiller. Gigolo de sa femme.
Oui. Mais oui, elle ne déteste pas ça. Bien que pour les Américains, je suis évidemment à vomir. Too French.
Ah, oui.
Les Japonais, en revanche, les
Chinois... Mais vous aimez bien qu'ils disent ça, que vous êtes too French.
Vous savez comment sont les colonisés en France. Le moindre truc américain, ils se prosternent en criant « Allah Akbar ». C'est ça. Oui. Enfin, alors que c'est nul, la plupart du temps, c'est le marché. Le marché ne m'aime pas. Pourquoi ? Trop français.
Trop français.
Ouais.
On terminera là-dessus. Merci beaucoup, Philippe Solers. Le livre s'appelle « Portrait de femme » et il est publié chez Flammarion.